C'est carré. Émission culturelle par les jeunes, pour les jeunes, mais pas que. Bienvenue
dans C'est carré, l'émission où tout est carré. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui anime toute la société, de Twitter jusqu'aux élections présidentielles. Vous l'aurez bien compris, il s'agit du féminisme. Je suis accompagnée de Shaima, Anouk et Juliette pour un petit peu avoir leur point de vue par rapport à ce sujet. Et toi, Shaima, pour symboliquement, tu vas nous parler de Frida Kahlo. Pourquoi cette personne, en fait ?
Bah, tout d'abord, Frida Kahlo, faut savoir que c'est pas son vrai nom, c'est son nom d'artiste. Elle s'appelait Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. Elle est née au Mexique, donc c'est une personne qui a été maudite par la vie. Faut savoir qu'elle a subi un accident de bus en 1925 qui la laissa paralysée à vie. Donc sa colonne vertébrale a été touchée. C'est essentiellement ce qu'il a qualifié le fait que ça soit une artiste qui soit clouée au lit, qu'elle peigne au fond de son lit paralysée. Cette force physique qu'elle a eu besoin pour réaliser ces centaines d'œuvres, je pense que c'est ce qui qualifie cette icône, en fait. Ensuite, faut savoir qu'elle était prédestinée à devenir médecin, mais en 1828, elle intègre le parti communiste du Mexique. Donc, on voit directement qu'elle est engagée et impliquée dans l'avenir de son pays. Et dans les années 50, faut savoir qu'elle officialise très fièrement son orientation bisexuelle dans un Mexique qui est pourtant très catholique, très droit, très strict. Donc, elle était aussi athée par rapport à la religion. Donc, on peut voir que tout ce début de vie que Frida nous expose, ça nous montre à quel point son tempérament était avant-gardiste pour son époque. Elle décide ensuite de se mettre à la peinture, de façon autodidacte. Donc elle n'a jamais reçu de cours, elle a tout appris toute seule, juste après son accident. Donc on peut penser que c'est le déclenchement de sa passion, si je puis dire ça. Elle est aujourd'hui catégorisée et mise dans la case du coup d'artiste surréaliste. Pourtant, il faut savoir qu'elle détestait les artistes surréalistes, elle les insultait même. Et c'est son ami et poète André Breton qui l'a qualifié en premier comme tel, en définissant son art comme étant un ruban autour d'une bombe. Donc ça montre à quel point les sujets qu'elle aborde dans ses œuvres sont quelque chose de percutant. Donc oui, elle utilise la peinture comme une sorte d'arme puissante pour provoquer, sensibiliser, mais aussi s'exprimer au sujet de sujets tabous, qui à l'époque faisait remous justement dans la communauté mexicaine. Il y avait par exemple le sexe qu'elle abordait, l'avortement et les fausses couches qu'elle mettait beaucoup en avant, sachant qu'elle a subi beaucoup de fausses couches, donc c'était vraiment un sujet important pour elle, mais aussi la dépression. Tous ces éléments sont encore des expériences de la vie d'une femme aujourd'hui, moderne. Je pense que c'est ça qui nous fait dire que Frida Kahlo est l'une des personnes féministes à prendre comme exemple aujourd'hui. Cette maîtresse des autoportraits fait partie des précurseurs du féminisme au Mexique. Donc c'est l'une des chefs de ligne du féminisme. Elle défend vraiment l'émancipation des femmes pour défier les dictats de genre et de normes de beauté. Et je pense notamment à sa moustache ou encore à son monosourcil qu'elle peignait en défiant les conventions sans hésitation. C'est quelque chose de vraiment, vraiment important pour elle et qu'elle n'hésita pas vraiment à peindre pour mettre en avant. Je finirai par citer un passage de son journal intime qui m'a plutôt marqué dans le bon sens du terme, et j'espère que ça sera le cas pour vous. Alors, j'ai longtemps cru que j'étais la personne la plus étrange du monde. Un jour, je me suis dit qu'avec autant de gens dans le monde, il devait forcément y avoir quelqu'un d'autre qui se sentait aussi bizarre et meurtri que moi. Je me suis mise à l'imaginer et je me suis dit qu'elle aussi devait penser à moi. Eh bien, si tu existes et si tu lis ça, sache que j'existe et que je suis aussi étrange que toi. Thank you.
Franchement, c'est des très jolies paroles. J'avais quelques questions. Donc, on a vu que c'était une artiste qui était vraiment en marge de la société, qui refusait de tout le temps se remettre dans des cases. Et surtout que dans cette période-là, le monde était toujours séparé entre les républicains et les nationalistes. Et par rapport, du coup, à son coming out, on peut appeler ça comme ça, comment est-ce que le monde, son entourage a-t-il réagi? Est-ce que, enfin, de la part du public, est-ce que ça a été bien pris par rapport à elle?
Il faut savoir que à cette époque-là, Trotsky, donc le célèbre Trotsky qu'on ne présente plus, avait migré, enfin avait fui, donc avait fui son parti pour se réfugier chez Diego, donc le mari de Frida et Frida elle-même. Ils se sont vite liés d'amitié et c'est vite devenu son amant. Chose qui dans la communauté mexicaine est vue vraiment du mauvais œil. Donc ils ont vite coupé court parce que justement ça devenait dangereux pour Trotsky. Mais pour parler de son orientation sexuelle et des idées que Frida portait haut et fort au Mexique, Frida était quelqu'un de vraiment. Elle faisait sa vie et se préoccupait pas des avis des autres. Donc je pense dans la vie de tous les jours, il faut réussir à prendre du recul sur les événements ou les choses qu'on rencontre qui peuvent être difficiles en premier abord. Et Frida nous montre clairement que même si elle était, justement, comme tu l'as dit, en marge de la société à l'époque, c'est pas une raison pour se mettre en retrait complètement et se mettre dans une sorte de boule noire, de malaise par rapport au doigt qu'on pointe sur toi. Frida, c'est quelqu'un de... C'est une femme au tempérament fort et qu'il faut prendre comme exemple. Donc, voilà.
Super, merci. Anouk, tu voulais rajouter quelque chose?
Bah, je voulais juste te demander parce que elle incarne beaucoup beaucoup de choses, Frida. Mais du coup, est-ce qu'il y a genre une partie d'elle, enfin quelque chose en elle, genre vraiment qui t'a aidé toi avec ton féminisme, etc., machin, ou juste toi en tant que femme?
Enfin, je sais que j'ai une particularité commune avec elle, c'est mon petit monosourcil, mais je pense pas que c'est son côté féministe, qui m'a le plus marqué. Évidemment, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et qui me fascine chez elle. Mais son mental très fort qu'elle a.
Ah oui, elle a un vrai tempérament, ça c'est,
ouais,
c'est sûr.
Et puis sachant qu'elle était paralysée, elle était alitée au lit toute sa vie depuis, elle est née en 1707, il me semble, oui. Et elle a eu son accident très jeune, à 18 ans. Donc savoir que depuis 18 ans, elle était condamnée à rester immobile. Et malgré ça, elle a réussi à peindre des chefs-d'œuvre qu'aujourd'hui on présente dans les plus grands musées du monde. Pour moi, c'est une belle revanche qu'elle a eue sur la vie. Et juste pour ça, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Donc, ouais, c'est en tant que femme et en tant qu'artiste, vraiment en tant qu'être humain, c'est quelqu'un que je porte vraiment beaucoup dans mon cœur.
Et du coup, on retrouve toujours ce symbole de la femme forte, de la femme qui ne se laisse pas abattre par les dictats de la société. Est-ce que Juliette, pour toi, on peut retrouver cette même mécanique chez Audre Lorde?
Alors oui, complètement, on peut retrouver ça, notamment avec Audre Lorde, qui, elle aussi, était la cible idéale, entre guillemets, comme Frida, en fait, d'un monde très conservateur, voilà. C'était aussi une survivante du cancer, Audre Lorde. Du coup, elle a quand même pas mal de points communs avec Frida, c'est quand même assez marrant. Et donc, c'était une auteure, une poète, une essayiste, une lesbienne, une afro-américaine et donc une complète icône, en fait, des années 50 aux États-Unis. Et donc, elle a écrit beaucoup de poèmes engagés. C'était une grande activiste, voilà. Vis-à-vis du féminisme et du sexisme, etc., du racisme, dont je parlerai un peu plus tard. Et donc son but, son objectif, c'était de remanier les instances, donc, et de souligner, du coup, tout le sexisme et tout le racisme, en fait, dissimulé dans cette société-là, voilà, très conservatrice de l'époque. Et donc, étant donné que c'était une femme racisée, elle abordait le féminisme d'une façon totalement différente, et donc je pense que c'est encore une fois la même chose pour Frida, étant donné que c'était aussi une femme mexicaine, femme donc racisée. Et donc si je cite du coup son livre Black Art Movement, elle disait qu'elle menait ses combats sur des fronts inséparables et que donc sa condition de femme et sa condition de personne noire étaient complètement indissociables et on ne pouvait pas donc les séparer.
Chaque femme possède un arsenal de colère bien rempli et potentiellement utile contre ces oppressions personnelles et institutionnelles qui ont elles-mêmes déclenché cette colère. Dirigée avec précision, La colère peut devenir une puissante source d'énergie au service du progrès et du changement. Et quand je parle de changement, je ne parle pas d'un simple changement de point de vue, ni d'un soulagement temporaire, ni de la capacité à sourire ou à se sentir bien. Je parle d'un remaniement fondamental et radical de ces implicites qui sous-tendent nos vies. J'ai assisté à des situations où des femmes blanches entendent une remarque raciste en éprouvant du ressentiment, se remplissent de fureur, mais restent silencieuses parce qu'elles ont peur. Cette colère étouffée demeure en elles comme un engin explosif désamorcé qui, trop souvent, va être ensuite violemment jeté à la tête de la première femme de couleur qui parle de racisme. Mais extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre futur, est un acte de clarification qui nous libère et nous donne de la force, car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis. La colère est chargée d'informations et d'énergie.
Mais malgré tout, ce qui est quand même intéressant en fait par rapport à ces bouquins, c'est que elle s'adressait aux femmes privilégiées, tout en revendiquant en fait une certaine sororité en fait entre toutes les femmes. Et donc, elle explique qu'elle avait une vraie volonté de ne pas empiéter en fait sur les douleurs et les vérités respectives de chaque femme. Et donc, elle expliquait que la hiérarchie des oppressions, comme elle disait, n'existait pas. Ça fait d'elle clairement une avant-gardiste, sans tomber en fait dans tous les extrêmes qu'on peut retrouver maintenant, et qu'on retrouvait en fait surtout avant, parce qu'on cherchait avant à taper fort justement pour marquer et pour se libérer. Et même si c'est pas forcément mis en évidence justement dans ces livres, et qu'on essaye de le reformuler un peu avec des idées un peu plus modernes, en fait, concrètement ce qu'elle expliquait, c'est que il y avait une vraie marginalisation en fait d'un féminisme intersectionnel dont elle faisait partie, qu'elle revendiquait en fait, au profit d'un féminisme libéral, blanc, surmédiatisé, qui était beaucoup trop populaire en fait, et qui ne représente qu'un outil de domination sur les femmes, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est le féminisme libéral, on va pas se le cacher, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travers. Et elle défendait aussi l'idée selon laquelle le féminisme ne se définissait pas uniquement par l'égalité homme-femme, ce qui est quand même une idée un peu, quand même pas mal contemporaine, du coup on peut quand même l'applaudir pour ça. Et ce qui est notamment très très intéressant, c'est que toute l'essence en fait de ses écrits se résumait pas simplement en fait à juste définir le féminisme comme un seul bloc, voilà, solide comme ça. Et c'est des idées en fait qui sont complètement contemporaines et qu'on retrouve beaucoup maintenant, et que pourtant c'était pas des idées très très communes à l'époque. Donc c'est ça qui fait d'elle en fait une vraie icône en fait, tout simplement. Et elle a complètement dépassé en fait les, comment dire, tous les concepts archaïques dans lesquels on vit toujours. Et donc c'est, voilà. Je pense que pour finir, si on devrait retenir une phrase très importante de Audre Lorde, du coup, toujours dans le même livre, dans Black Art Movement, ce serait « Nos silences ne nous protégeront pas ». Et globalement, Audre Lorde nous invite à nous émanciper des carcans émotionnels, sexuels, psychologiques dans lesquels les femmes évoluaient avant et évoluent toujours, et donc à transformer le silence en activisme.
C'est encore une fois une figure importante du féminisme. J'avais une question, est-ce que tu partages la même pensée qu'elle quand elle dit que tous les combats se valent et qu'on doit tous être unis? Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve toujours aujourd'hui, ou c'est quelque chose qui était beaucoup plus présent à son époque?
Je pense que oui, c'est toujours une idée qu'on devrait toutes partager maintenant en fait, parce que je vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire un séparatisme parmi tous les féminismes, parce que justement en fait c'est ce qui a causé en fait plein de travers justement dans le féminisme, justement le fait de tout le racisme, voilà, endémique qu'il y a dans nos sociétés, etc. et tout, c'est ça qui crée justement les problématiques dans lesquelles on vit à l'heure actuelle. Du coup, justement, le but, ce serait de créer une sororité, et c'est justement pour ça que je l'admire, Audre Lorde, et que justement je soutiens ses idées. C'est que justement ce qu'elle défendait, c'est des idées qui sont totalement totalement juste et correct, et qui se valent toujours à l'heure actuelle. Du coup, oui, je partage l'idée selon laquelle toutes les oppressions se valent, et qu'on devrait justement lutter tout ensemble.
T'as dit qu'elle parlait du fait que pour elle, le féminisme, ça se limite pas seulement à l'égalité homme-femme. Est-ce que tu peux expliquer?
Alors, elle le développait pas non plus d'une façon, parce que du coup, j'expliquais que donc si on reformulait d'une certaine façon ses écrits, c'est ce qui en ressortait un peu. Mais donc, oui, c'est une idée qui est répandue maintenant et que je partage, celle selon laquelle le féminisme, ça devrait pas se définir uniquement
par l'égalité homme-femme, parce que je pense que c'est quand même une idée qui a été quand même pas mal répandue par du coup toutes les féministes libérales, universalistes, individualistes, etc. Et justement, le problème en fait de répandre cette idée-là, c'est que on va pas prendre en compte des trucs tout con, hein, mais genre les règles, etc. et tout, parce que justement, le féminisme libéral en fait a répandu l'idée, vous savez, genre le truc de la girl boss, etc. et tout, on se fait par nous-mêmes, etc. et tout, même salaire, etc. Enfin, forcément qu'il y a pas que du mauvais là-dedans, il y a toujours des choses à prendre, etc. Mais on n'est pas fait de la même façon, du coup forcément qu'on doit adapter les rôles, on doit adapter les rôles sociaux en fait, tout simplement, et donc c'est pas possible de juste définir ça comme ça. Et donc c'est une idée que du coup elle défendait dans ses essais.
Ok, maintenant merci Juliette pour ton intervention. On va passer à Anouk, on change complètement de temporalité, on est au 21e siècle. Toi du coup tu vas plus nous parler de la représentation des femmes en tout cas dans les jeux vidéo, c'est ça?
Oui, je vais vous parler de ça du coup parce que tu parlais de temporalité et du coup en fait ça concerne déjà notre temps actuel, mais ça concerne aussi le futur parce qu'en fait c'est la représentation que les futurs hommes vont se faire des femmes. Et que les filles se font aussi des femmes, parce que la majorité des gens qui jouent aux jeux vidéo aujourd'hui, c'est des jeunes, et des jeunes garçons aussi. C'est essentiel pour la représentation qui se feront des femmes, et pour l'instant, ça promet des choses un peu catastrophiques. Déjà, quand on parle même juste des personnes qui s'occupent du divertissement par rapport aux jeux vidéo sur YouTube ou sur Twitch, c'est principalement des hommes. En plus, donc, dans la plupart des jeux vidéo, souvent c'est les hommes qui sont des protagonistes, et les femmes ont une position et un rôle dégradant en fait. L'exemple le plus simple et le plus répandu, c'est Mario Bros, la franchise de Nintendo la plus connue. En fait, Mario est presque aussi connu que Jésus, et le but c'est de sauver la princesse Peach qui a été enlevée par le grand méchant Bowser avec une carapace et des pics, quoi. Donc c'est déjà dégradant pour la femme, et c'est l'un des jeux vidéo les plus connus au monde, quoi. Et même quand les femmes ont un rôle actif en fait dans le jeu vidéo, c'est une image dégradante qu'on a d'elles, parce que par exemple il y a trois types différents en fait souvent de femmes dans les jeux vidéo. Il y a trois archétypes qui reviennent en fait. Donc il y a soit la femme sensuelle, désirable, séductrice, qui est intéressante en fait que pour son apparence, soit sinon il y a aussi la femme accessoire qui est naïve, qui est pure, qui est un peu bête, mais elle est mignonne et elle est résignée. Ou alors il y a la femme masculine qui est butch, qui a un fort tempérament, qui tente d'être un homme pour être plus puissante en fait. Ça permet d'asservir encore plus la supériorité des hommes. Donc en fait, parce que la femme est soit un objet de désir pour l'homme, soit un accessoire pour mettre en valeur l'intelligence, la force de l'homme, soit c'est une pâle copie des personnages masculins, seulement qui a des seins, quoi. Donc en plus, ça représente pas la réalité, puisque les femmes sont tellement plus diverses et riches que ça. Enfin, on est bien plus que des objets sexuels, où la représentation en fait est très étriquée. Et ce qui est encore plus inquiétant en fait, c'est que c'est du coup une représentation faite par des hommes pour des hommes. Donc c'est-à-dire qu'en fait ils avaient l'opportunité de créer la femme idéale pour eux, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est très ça révèle quelque chose de très problématique dans nos sociétés. Et en plus, ne parlons pas du manque de programmeuses, de développeuses, de directrices de projets, etc. dans le jeu vidéo. Parce que les femmes sont très peu en charge, en fait. Donc, comme je disais, autant dans le milieu du divertissement que dans le milieu du développement. Heureusement, il y a les choses évoluent. On voit de plus en plus de streameuses, par exemple, apparaître, comme Ultia, Angle Droit, Bagheera, Jill, Orti, pour en citer quelques-unes. Il y a des perspectives d'espoir quand même dans le jeu vidéo pour les femmes. Je pense bien sûr à The Last of Us partie 2, où Ellie est une jeune femme qui est le personnage principal du jeu, donc. Et elle est très maligne, très intelligente, très sensible. Elle a tout appris par elle-même, elle a appris à se battre. Elle est dans un monde apocalyptique avec des zombies, mais elle apprend à se battre par elle-même. Elle est très ingénieuse, elle est forte, elle est vraiment là en tant que personnage principal, avec une personnalité intéressante. I'll walk
I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me. Cause I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul, but I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill, called himself the savior of the human race. He said he'd come to save the world from destruction and pain. But I said, how can you save the world from itself?
Il y a toujours beaucoup de progrès à faire, mais il y a des avancements qui ont été faits pour l'image de la femme depuis les premiers grands jeux à succès comme League of Legends ou World of Warcraft ou même Call of Duty, où les femmes étaient soit pas du tout présentes, soit vraiment objectifiées et mises dans des catégories comme j'ai cité plus tôt.
Tout à l'heure, tu avais parlé de, enfin, que les jeux vidéo étaient faits par les hommes et pour les hommes. Et est-ce que, du coup, enfin, de ce fait, est-ce que pour toi, la vision, enfin, les représentations des femmes dans les jeux vidéo, elle impacte que les hommes sur la vision des femmes, ou est-ce que ça impacte aussi indirectement les femmes sur leur propre vision d'elles-mêmes ?
Ah bah bien sûr, ça c'est clair et net que les femmes sont impactées par la vision que les hommes ont d'elles dans tous les médias, dans les livres. Ces clichés de la femme écrite par un homme, ça se voit à 1000 km quand on voit une femme écrite par un homme, et pourtant ça nous impacte, c'est sûr que ça nous influence sur ce qu'on pense qu'en fait les hommes veulent, ce qui est, puisqu'en plus on est dans une société hétéronormée, donc quand on est une jeune femme, on veut que les hommes nous aiment, donc bien sûr que ça nous influence sur ce qu'on pense que les femmes doivent être.
Ok, on touche bientôt à la fin de l'émission. Est-ce que, d'abord, je vous remercie les filles d'être là. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport au féminisme ? Peut-être un sujet qu'on n'aborde pas assez dans ce point de vue-là. Parce qu'à un moment donné, Juliette, tu avais parlé du coup du fait que le féminisme s'était renfermé sur lui-même avec le féminisme libéral, et que ça a décrédibilisé vraiment la cause, même aux yeux de pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. Est-ce que c'est quelque chose quand même, je trouve, qui nous impacte aujourd'hui, même les plus jeunes. Il y a certaines filles, jeunes filles, qui refusent d'être féministes juste par cette vision libérale de féministe libérale, pardon. Et du coup, voilà.
Bah, je pense juste que le féminisme libéral, en fait, c'était utile au début, ça c'est clair. Si on remonte à l'époque de Napoléon Bonaparte et tout, si on remonte à la Révolution française, etc. et tout, quand les premières révolutions féministes libérales et tout se sont...
Elles sont diffusées.
Oui, voilà, quand ces idées-là se sont diffusées, forcément que ça a aidé du coup à l'émancipation et à la libération des femmes. Sauf que le souci, c'est que, bah, comme je le disais tout à l'heure, en fait, maintenant, ça nous retient juste à un stade qui fait juste profit aux hommes. Et pour parler d'un truc un peu plus actuel, ça, je pense que tout le monde peut comprendre, c'est tout le concept des nudes, etc. et tout, le faux affranchissement que vend le féminisme libéral en disant que, bah, en proclamant en gros aux jeunes filles de montrer leur corps sur les réseaux, etc. Et tout,
ouais,
comme un
c'est
truc,
un vrai fléau, ça. Ouais.
Voilà, comme un délire de bon bah on se réapproprie notre corps, etc. Et tout, notre choix, etc. Et tout. Il y a pas de souci, ça c'est quelque chose que j'accepte et que je comprends totalement. Mais je pense que c'est que maintenant, en fait, maintenant il y a un piège à propos de ça, et maintenant bah on s'est juste entre guillemets fait avoir, et que maintenant bah c'est ça, on est juste maintenant vraiment pour le coup retenu à un stade qui fait juste profit aux hommes. Et maintenant on en plus on a tellement des bah, comme ce que disait Anouk, en fait on a des visions tellement altérées de ce que c'est la féminité, etc., machin, on s'identifie tellement on peut s'identifier en fait à des figures de féministes libérales, que bah du coup on va avoir une vision altérée de ce que c'est vraiment la libération, et donc il faut qu'on mène nos combats intelligemment, et je pense qu'en suivant du coup cette idée-là, bon, en fait, on fonce droit dans le mur.
Bon, en fait, je pense que le truc aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de misconceptions du féminisme en général, en fait, parce que avec le féminisme libéral, c'est pas du féminisme de se mettre à poil sur les réseaux, c'est juste qu'il y a tellement de trucs, parce qu'en fait, on voit les extrémistes, on voit les fémines, on voit les libérales, et les femmes qui disent à d'autres femmes quoi faire, etc., machin, mais en fait, nous, on est là pour... on veut donner le choix aux femmes, en fait. C'est juste, le féminisme, c'est donner le choix aux femmes, et vraiment, en leur donnant l'éducation, en leur donnant le choix, en fait, donc, de faire ce qu'elles souhaitent avec leur vie.
Mais si je peux juste revenir sur un truc, là, enfin, je vais pas rebondir, mais ça m'a juste fait penser à ça, sur le fait de définir le féminisme comme du coup l'égalité homme-femme. Alors oui, c'est clairement le fait d'avoir le choix aussi, mais je pense aussi qu'il y a un truc de du coup, comme ça a été en fait juste trop longtemps répondu en fait par juste beaucoup de féministes, je pense juste que l'objectif en fait du féminisme, ça devrait juste être la libération, tout simplement, en fait, hein, et juste la libération, le choix
des et... en fait la libération des carcans patriarcaux.
Oui, voilà, c'est ça, la libération des carcans.
De tout, en fait, même pour les hommes. Genre, oui, voilà. Pour tous ces trucs de « sois fort, ne pleure pas, mon fils ».
On est tous impactés par la société, en fait.
Protège ta femme et tout, machin. c'est toi qui dois ramener le pain à la maison. Enfin, même pour les hommes, tu vois, c'est oppressant, c'est opprimant. Mais un peu plus pour les femmes, quand même. Mais...
Okay. On touche à la fin de l'émission. Si le féminisme est un sujet qui vous a interpellé, il y a une exposition à Montmartre qui est disponible jusqu'à la fin de l'année, qui met en valeur des artistes peintres féminines et ou des œuvres qui symbolisent un petit peu tout ça. Pour nous, le féminisme, c'est carré. On se retrouve le mois prochain. Si vous avez des questions, des suggestions à nous proposer, ça se passe sur notre Instagram et notre Twitter, c'est carré.rvm.